أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Le thème qui a été choisi, donc, c'est les clés pour une société saine. C'est un sujet bien entendu important, puisque il faudrait savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé en vain. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissé en société des individus non organisés, sans loi, etc. Pas du tout, pour notre bien, puisqu'il sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Et donc, il nous a, par miséricorde, montré tout. Tout le bien. Et le prophète sallam, Allah ne l'a pas rappelé avant de lui indiquer, de lui montrer tout le bien qu'il nous a, et nous l'attestons, qu'il nous a montré. Donc, les clés pour une société saine, Allah ne nous a pas seulement donné une société, puisqu'il a voulu faire sortir donc, du couple qu'il a créé, il a voulu faire sortir des garçons et des filles, des sociétés organisées, mais également nous a donné le mode d'emploi. Parmi donc le mode d'emploi d'une société, quelle qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, c'est un principe fondamental qui est une obligation dans l'islam, une obligation collective, qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est une chose qui est obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui l'a ordonné. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui sait. Et donc, il y a de nombreux versets et il y a de nombreux hadiths qui en parlent. En particulier, je vous recommande la lecture et l'explication de ce livre, donc, qui s'appelle « Lumière sur la voie des pieux prédécesseurs ». Je parlerai également de l'islam et de la sunna, « Sharah sunna ». La sunna, c'est l'islam et la sunna. Mais c'est surtout pour que l'on sache qu'il n'y a aucun bien dans l'éloignement de la sunna et que tout le bien est dans le suivi donc, du professeur sallam et des pieux prédécesseurs qui sont les meilleurs, puisque le prophète sallam a dit le meilleur siècle c'est le mien et ensuite celui qui suit, ensuite celui qui suit. Donc parmi les règles qui ont été tracées par les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallam, ensuite la génération qui a suivi, et la génération qui a suivi, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est la règle ici dans ce livre qui est la règle numéro 17. Avec science, douceur et patience, et en visant la rectification. Le prophète sallam a beaucoup insisté dessus, et il nous a donné ce bel exemple. Il dit l'exemple d'ordonner le bien et d'interdire le mal est l'exemple, comme il a pris l'exemple d'une société, comme des gens qui sont dans un bateau, dans un navire, en pleine mer, et ceux qui sont dans la cale. Vous savez, sans être un ingénieur mécanicien, on sait qu'il y a deux niveaux au niveau de, en tout cas, il y a deux niveaux dans un navire en général. Il y a la cale et il y a le pont. Donc ceux qui sont dans la cale sont obligés de remonter pour prendre de l'eau, l'eau étant au niveau du pont. Et ils redescendent parce qu'ils ont besoin d'eau. Et puis parmi eux, bien sûr, il y a des gens sots qui se disent, mais pourquoi finalement avoir à remonter pour aller puiser de l'eau alors qu'on a l'eau à notre niveau, puisque dans la cale directement tu n'as pas besoin de monter, il suffit de faire un trou et tu vas récupérer de l'eau. Et donc le professeur Salam a dit, si les gens ne les empêchent pas de le faire, ils vont donc trouer et faire des brèches dans le bateau et ils vont tous être noyés. Donc c'est exactement ça qui se passe dans une société où on parle de liberté, de libertinisme, de je ne sais quoi d'autre. Chacun fait ce qu'il veut. On est libre, chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que Allah n'a pas voulu ceci. Allah a voulu donner une responsabilité aux uns vis-à-vis des autres, et ce n'est pas forcément une faveur, c'est une épreuve. Il n'y a pas de société, la plus petite, de la plus petite à la plus grande, il n'y a pas de société s'il n'y a pas de règles. On le sait tous. On se plaignait de nos pères et mères qui nous empêchaient de faire ceci. C'est là, et aujourd'hui, on voit la sagesse que Allah a mis dans la famille d'avoir de l'autorité. Et aujourd'hui, c'est nous qui cherchons donc à éduquer nos enfants. Allah les éduque au travers donc de ce qu'il nous a laissé, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a purifié. Le prophète, alayhi salam, donc en donnant cet exemple, nous montre pour celui qui Allah lui a donné la concision du discours, et ça nous permet de comprendre que si effectivement on laisse tout le monde fait ce qu'il veut, forcément, c'est le bateau et son contenu, tout va périr. Sous le couvert de la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans deux versets de la surat Al-Imran, surat 3, dans un verset, donc qui est le verset 104, il dit « وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Et que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, interdit le blâmable, et c'est celle-là, c'est de celle-là donc dont sortiront les muflihoun, les gens qui sont bienheureux. Pourquoi ? Parce que c'est une société, et donc le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'appeler au bien, les savants disent donc à l'islam, d'ordonner le bien, ce que Allah a défini comme le convenable, d'interdire le mal, et Allah sait tout, c'est lui qui a interdit ceci pour le bien de ses créatures. Wa ulaika humul muflihun, et c'est ceux-là, ceux qui ordonnent le bien, ceux qui appellent à l'islam, qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, c'est ceux-là les bienheureux. C'est qu'en dehors de ça, il n'y a pas de bonheur. Et Allah dit, dans cette même sourate, quelques versets plus loin, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah dit subhanahu wa ta'ala, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de très nombreux hadiths, dans celui-là, qui est très connu de chacun d'entre vous, je pense, quand il dit من يرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Celui d'entre vous qui voit un faible amable, qu'il le change de sa main. S'il ne peut, qu'il le change de sa langue. S'il ne peut, au moins, qu'il le change de son cœur. Et dans une version rapportée par l'imam muslim, et en dehors de ça, il n'y a plus de foi. Ça veut dire donc que le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, est une obligation individuelle. Chacun selon son niveau. Et pour le comprendre, donc je vais essayer de partir de ce que les meilleurs ils ont écrit sur le sujet. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit il faut se suffire d'un bien minime si on ne peut l'obtenir en abondance, puisque on est là, nous, souvent, à être des maximalistes, des perfectionnistes. Mais je peux, moi, c'est tout ou rien. Non, tu n'es pas sans défaut, qui sont ce sur quoi tu vas aller et tu auras à rendre compte. Tu es avec des qualités qui appartiennent à l'islam et pour lesquelles donc tu seras récompensé si tu les mets en valeur. Il dit donc, il faut se suffire d'un bien minime si on ne peut l'obtenir en abondance. Et on repousse un grand mal par un mal moindre. Quand il y a deux mots, bien sûr, comme le dit le proverbe, on choisit le moindre. Ce n'est pas parce que c'est deux mots qu'on ne va pas choisir. Allah a envoyé les prophètes, alayhi salatu wassalam, afin de réaliser les bienfaits et les compléter, et mettre fin aux méfaits et les diminuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les créatures autant que possible. Il dit également qu'Allah le bénisse, l'accomplissement des obligations, le prêche obligatoire et autres, il parle de la da'wah, réclame les conditions qu'il faut respecter. Donc ça concerne autant la famille que partout. C'est pour ça que je commence par les principes. Il convient à celui qui ordonne le bien et interdit le mal de connaître ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit, d'être doux en ce qu'il ordonne et interdit, et clément en ce qu'il ordonne et interdit. Il convient, dit-il, à celui qui ordonne le bien et interdit le mal, de connaître ce qu'il ordonne et qu'il interdit. D'être doux quand il ordonne et quand il interdit. D'être clément en ce qu'il ordonne et interdit. La science vient donc, dit-il, avant l'acte, la douceur pendant l'acte, et la clémence après l'acte. Retenez ces trois choses. La science vient avant l'acte. La science vient avant l'acte. On ne fait pas ce qu'on veut et ensuite dire « Ah, mais qu'est-ce que l'islam a dit de ça ?» Ce n'est pas toi qui définis. L'islam est la religion d'Allah. « Inna dina inna Allah et l'islam. » Donc ce n'est pas « Moi je crois que, moi je pense que. » Et l'imam Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'auteur donc, de ce livre, Sharh Sunnah, il dit « Si les passions... Si la religion devait suivre les passions, il n'y aurait pas eu de religion, il n'y aurait que des passions. La religion, c'est ce que Allah a dit, son prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la religion. Pas mon grand-père a dit, pas ma grand-mère a dit, pas je pense que, je crois que. Allah dit, la religion, ça appartient à l'islam. Ou alors, tu te fais une religion. Et donc, C'est la science qui précède l'acte. C'est le premier chapitre de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. La science précède l'acte. Un acte qui est basé sur l'ignorance, Allah ne l'accepte pas. Quand tu le fais, tu dois savoir quel est le statut de l'acte. Est-ce que Allah l'aime? Est-ce qu'il le reprouve? Quelles sont les règles? Pas ce que je pense, je crois que. Tu te lèves pour faire la prière. Tu dis, bon, mais de toute façon, l'essentiel, c'est le cœur. Hein. Moi, je tourne 3 fois autour d'Algeco et j'en ai pour toute la journée. Soit tu te moques de toi-même, soit alors tu dois être certainement soigné parce que tu es malade. Les gens vont te trouver malade. Et c'est exactement pareil dans le fait de dire, non, l'islam c'est comme ça, il faut faire ça, ça c'est interdit, ça c'est permis. Qui te l'a dit, si tu n'as pas de science? Et ensuite, la deuxième règle, qu'Allah vous bénisse, la deuxième règle, c'est la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est doux et aime la douceur. Il donne par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la dureté. Il donne par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la dureté. C'est pas toi qui as créé, même ton enfant. Au début, le premier enfant en particulier, on pense que c'est une poupée. C'est mon enfant, j'en fais. Et ensuite, quand tu vois que tu ne dors pas quand il veut, il mange pas quand toi tu veux, il se réveille pas quand tu veux, tu commences à comprendre qu'en réalité, c'est pas un jouet. Et ceci est vrai pour ton enfant que tu as mis au monde, ceci est vrai pour tout le monde. C'est pas toi qui les as créés. C'est Allah qui les a créés. Et donc, tu ne peux pas imposer aux gens, tu ne peux pas transformer les gens comme pour devenir ce que toi tu veux. Allah a créé le vivant, il a créé le mort. Il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Si tout le monde était parfait, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas eu de problème. Et donc, tu dois agir avec douceur. Et le meilleur des hommes, le plus doux, il n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave. Même quand il tendait la main à ce qui était permis, pour passer le salam, il ne retirait pas, il n'était pas le premier à retirer sa main. Ça, c'est le professeur. Ça. Si on le connaît, on l'aime. Nous, on a l'impression que quand tu suis la sunna, tu ne dois pas sourire. Et quand tu souris, c'est que tu t'es trompé. Il est rentré en compétition avec sa femme, Aïcha al-Anha, pour faire une course. Nous, on ne peut pas l'imaginer. Viens, on va faire une course, mais pour qui tu me prends? Tu ne sais pas qui je suis, moi? Non. Ça, c'était pas... Il n'y avait pas plus doux que le professeur Salam. Et la façon d'ordonner, c'est son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui le lui a appris. Avec la douceur, tu peux avoir beaucoup de choses. Avec la rigueur, tu en auras beaucoup moins. Et en tout cas, pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé les meilleurs des hommes pour nous apprendre ce qu'il aime subhanahu wa ta'ala. Et la troisième règle qu'il donne, la douceur donc pendant l'acte, la troisième règle, c'est la clémence après l'acte. Pour nous, la vérité, elle est unique. Bien sûr, la vérité est unique, mais Allah seul sait. Allah est la vérité, Allah seul sait qu'est-ce que c'est la vérité. Toi, le peu que tu as appris, un homme disait, c'est devenu un proverbe, hein, la science, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Effectivement, quand tu as une tranche et que tu as faim, et que tu as un morceau de pain, quand tu as un peu de confiture, pour être sûr que tout soit sucré, tu vas le mettre partout. Et c'est exactement ça. Quand tu vois les gens, moins ils connaissent, plus ils sont là. Al-Bukhari a dit, Allah a dit, le Prophète a dit, est-ce que tu sais si c'est vrai, premièrement? Quel est le sens de ça? Et le Prophète, est-ce qu'il aurait fait ça? Certainement pas. La question que je me pose, mes sœurs, la question que je veux que vous vous posez, c'est que vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis du non-musulman, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que le professeur Salam, s'il était là, est-ce qu'il aurait fait ce que je fais? Si tu fais ça, ça te donne déjà quelques secondes pour réfléchir et ne pas sortir ta haine que tu as dans ton cœur malade, ton animosité vis-à-vis des autres. Et tu fais des péchés matin, midi et soir, Allah est miséricordieux. Allah est doux. Et il te tend la main le soir pour que tu te repentes de tes péchés de la nuit et la nuit pour que tu repentes des péchés de la journée. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te pardonne? Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te parle bien? Est-ce que tu aimerais qu'on te prenne pour un sot? Non. Comme cette sœur, ce qui m'a été raconté, qui dit, moi je m'habillais comme ça quand j'étais dans la Jahiliya. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas une autre façon de me dire qu'il faut se couvrir? Comme tu es couverte là, en gros, tu es une désobéissante. Peut-être. Mais est-ce que je sais? Est-ce que tu me l'as appris? Est-ce que c'est ce que dit l'islam? J'en connais peu, donc je vais l'étaler à tout le monde. Moi, je suis. Mais qui tu es? Et donc, l'indulgence après l'acte. Il a dit qu'Allah le bénisse, la science avant l'acte, la douceur pendant l'acte et l'indulgence après l'acte. C'est-à-dire, ça c'est ce que j'ai appris, c'est le peu que je connais. Il se peut qu'il y ait d'autres avis. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos autres imams et savants, qu'Allah les bénisse tous, leur position, ils disaient, la position que sur laquelle je suis me paraît être la meilleure. Cela n'exclut pas que les autres aient raison. Cela n'exclut pas que je me trompe. La position qui est autre, pour nous, serait une position qui contient l'erreur. Mais il se peut qu'elle soit correcte. Donc quand tu as une position, quand tu apprends, plus tu apprends, alhamdoulilah, plus tu es modeste. Et comme me le rappelait un jeune ado tout à l'heure dans le cours, il me dit, tu nous avais dit que certains savants disaient, moi je n'aime pas. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne ferai pas. Plus tu entends les gens en train de dire c'est haram, 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 généralement, moins ils ont de science. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le haram. Le haram, c'est ce que Allah définit comme haram. C'est pas ce que toi, tu définis comme haram. Donc, ça, c'est haram. Ça, c'est haram, comme on le dit, nos enfants, les premiers mots en arabe qu'ils connaissent, c'est haram. C'est haram. Tout est haram. Tu les écoutes un tout petit peu en train de discuter entre eux ou de s'amuser. C'est haram, c'est haram, c'est haram. Où est-ce qu'ils ont entendu? Le père ou la mère, eux ou les deux. Tout est haram. Alors que l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire souvent dans des choses sur lesquelles toi tu dirais, mais bien sûr c'est haram. Il dit, moi je ne le fais pas ça. Imam, est-ce qu'on peut faire ça? Moi je n'aime pas ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il craint que si ce n'est que déconseillé, c'est pas haram, qu'il s'est pris pour Dieu. Parce que haram, c'est Allah qui le définit. C'est le prophète sallam qui le définit par rapport à ce que Allah lui définit. Donc encore une fois, la religion, ce n'est pas ce que, c'est pas mes passions. Ce n'est pas ce que moi je pense. Donc je suis indulgent. Je pense qu'il est dans l'erreur. Je prie pour lui. Mais je ne suis pas là en train de le maudire, en train de le traiter d'égaré, en train de le traiter je ne sais quoi d'autre. Donc c'est l'indulgence. Je lui montre les preuves. Je prie pour lui. Et c'est Allah qui le guide. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, il dit, donc la science vient donc avant l'acte, la douceur pendant l'acte et la clémence après l'acte. S'il n'est pas savant sur cela, il ne doit pas poursuivre ce dont il n'a aucune science. Et s'il est savant, mais n'est pas doux, il est semblable au médecin qui n'a aucune douceur et se conduit avec rudesse envers le malade, qui n'acceptera pas de lui, ou comme l'éducateur rude, dont l'enfant n'accepte rien. À quoi tu es arrivé? Pour un oui, pour un non, tu le gifles. Pour un oui, pour un non, tu le punis. Et s'il part, et s'il fait une fugue, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le mettre où? Il a un numéro vert. Il téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le placer. Qu'est-ce que tu auras gagné? Qu'est-ce que tu auras gagné? Tu auras perdu un enfant, peut-être un musulman. Et qui est responsable? C'est toi qui es responsable. Parce que c'est par ignorance que tu agis. Il dit donc qu'Allah le bénisse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et Haroun, deux des meilleurs hommes que la terre a portés, vous les connaissez, qu'Allah les bénisse. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allez-y voir Pharaon. Vous savez qui est Pharaon? Celui qui s'est pris pour Allah. Il a ordonné d'égorger les fils d'Israël. Et il a ordonné d'asservir, de laisser vivre les filles d'Israël. Il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Et Dieu dit à Moussa et Haroun, allez-y le voir et dites-lui, parlez-lui avec douceur. Peut-être qu'il se rappellera ou me craindra-t-il. Ça, c'est Pharaon. Puis lorsqu'il a ordonné interdit, il subira nécessairement des torts. Donc il doit patienter, être clément, comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, il a mis dans la bouche de Luqman, celui de la paix divine, dans la sourate qui porte ce nom, sourate 31, il dit à son fils, et il l'aimait bien, wa'amur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi l'umur. Il a dit à mon cher fils, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui va t'arriver avec patience. Et cela fait partie des résolutions à entreprendre. Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter sur les torts des polythéistes et de nombreux moments, alors qu'il est l'imam de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Il faut donc avant tout que l'individu ordonne pour Allah, vise l'obéissance à Allah dans ce qu'il ordonne, aime la rectitude pour celui à qui il s'adresse. Encore une fois, c'est la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait. C'est par pure bonté, il n'a besoin de rien. S'il nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné, c'est nous qui nous a enseigné au moyen de la plume, et c'est le seul savant, c'est pour notre bien. Et toi, ma soeur, quand tu vas enseigner à ton enfant, ne le vois pas comme si tu es en train de le punir, que tu es au-dessus de lui. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant. Quand tu as ta soeur à côté de toi, quand tu la regardes, c'est avec douceur. Quand tu lui enseignes quelque chose, tu remercies Allah de t'avoir fait connaître ce qu'elle ne connaît pas et que toi, tu ne connaissais pas. Et c'est par amour que tu enseignes et à ton enfant et que tu enseignes à ta soeur, à ton frère. C'est par amour. Tu veux pour cette personne que Allah la guide, que Allah l'éloigne du mal et cela te sera compté et Allah n'a pas besoin de toi. Donc c'est par amour, encore une fois. C'est par amour. L'islam, c'est de l'amour. Et l'adoration, c'est par amour, crainte et espoir. Quand le prophète, l'ange de la montagne, est venu le trouver après Taïf, il a été à Taïf pour appeler à qui? Pour appeler à Allah. On lui a proposé pourtant avant d'être le roi de Quraysh. Sinon, on allait lui donner les plus belles femmes. Et on allait se cotiser pour faire de lui le plus riche. Il a dit, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il a marché jusqu'à Taïf, l'autre grande ville de l'Arabie. Et comme seule récompense, on l'a envoyé des vanipiers pour lui envoyer des pierres jusqu'à ce que ses pieds étaient ensanglantés. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il est revenu, il voulait rentrer à la Mecque. Et ils ont refusé. Ils ont refusé qu'il rentre à la Mecque. Et Allah a dépêché celui qui entend, qui voit. Il a dépêché l'ange de la montagne en compagnie de l'ange Gabriel, alayhi salatu salam. Gabriel qui vient, il passe le salam au prophète, salam qui lui rend. Il dit, je te présente l'ange de la montagne. L'ange de la montagne qui lui passe le salam et lui répond. Il dit, Allah a entendu et vu ce que ton peuple t'a fait. Moi, je suis l'ange de la montagne. Allah m'a mis à ton ordre. Si tu veux, les deux montagnes qui supplombent la Mecque, je peux les faire tomber sur la Mecque et détruire ses habitants. Si tu veux, je peux faire autre chose. Ce serait moi, je dirais certainement. Je n'attends que ça. D'ailleurs, je vais le filmer pour me régaler. Et le prophète m'a dit, non, ce n'est pas ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est que Allah fasse sortir des reins de ces gens, au moins une personne qui l'adore sans rien lui associer. Voilà le message de l'islam, voilà le message du prophète. Donc quand tu ordonnes le bien, quand tu interdis le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu vises, c'est son agrément que tu vises, tu le fais avec douceur, avec science et avec indulgence. Je ne vais pas insister sur cet aspect-là, il y a bien d'autres choses à apprendre. Le cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit dans ce chapitre, en commentant donc cette règle compte parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire ça fait partie de notre dogme, des gens de la Sunnah et les gens qui suivent les compagnons du prophète sallam, à savoir le commandement du bien et l'interdiction du mal. Le bien désigne toute forme d'obéissance. Et l'obéissance n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qu'il a permis. Et le mal, toute désobéissance. Toute obéissance légiférée est un bien, car la raison la reconnaît et la nature l'accepte. Quant au mal, il désigne tout ce que Allah a interdit. Toute désobéissance, car la raison la reprouve et ne l'accepte pas. Il s'agit bien entendu de la raison et de la nature saine, et non la nature et la raison corrompue. Car il peut exister en ce cas des natures et raisons qui acceptent le mal. Mais nous dirons qu'elles ont été écartées de leur fondement et transformées, et c'est ce qui est connu. Allah a ordonné le bien et interdit le mal. Il a décrit les croyants de la sorte, de même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il leur ordonnait le bien et interdisait le mal. Allah dit subhanahu wa ta'ala, « Wal mu'minuna wal mu'minat » surat 9, verset 71, « Ba'aduhum awliya'u ba'd »« Ya'amuruna bil ma'ruf »« Wa yanhauna al munkar »« Wa yuqimuna salah » jusqu'à la fin du verset 71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commencent par quoi? Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils font la prière, et jusqu'à la fin du verset. Ainsi, ils ordonnent toute obéissance et tout bien. Ils interdisent toute désobéissance et tout mal, mais conformément à ce qu'ordonne la législation. Conformément à ce qu'ordonne la législation, pas conformément à leur passion. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai fait ça. Non. C'est Allah n'aime pas ça. Pour ton bien, il l'a interdit. Allah ordonne ça. Pour ton bien, il te l'a ordonné. C'est pour cela que même quand le prophète sallam nous a montré tout le bien, et entre autres d'enseigner, d'ordonner à nos enfants de prier, à 7 ans, et de les corriger s'il y a 10 ans, ils ne font pas la prière. Nous, on ne voit que tu as prié, et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas expliqué ce que la prière. Tu n'as pas dit que c'est ce qui va l'accompagner. C'est le lien entre Allah et la personne. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, garantit la journée à celui qui ouvre sa journée par la prière. Et que celui qui ne fait pas la prière, Allah ne lui garantit rien. Et que la prière empêche des choses blâmables et turpitudes. Et que demain, la première chose sur laquelle on va être interrogé, ce sera la prière. Si tu lui expliques pas tout ça, tu as prié? Oui. Bien sûr, il va mentir. Parce qu'il ne connaît pas l'importance de la prière. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, tu sais, celui qui ne prie pas, il va en enfer. D'accord. Commence pas par l'enfer. Le professeur Salam nous a dit, Bashiru a ordonné, annoncer la bonne nouvelle. Avant la mauvaise nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Parle-lui de Dieu. Fais-le lui aimer. Parle-lui du paradis. Avant de lui parler que de l'enfer. Tout est interdit. Et donc, ce professeur Sallam nous a enseigné ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et il ne parlait pas de lui-même. Alayhi salatu wassalam. Dans la famille, donc, Allah a voulu, puisque c'est la plus petite des sociétés, Allah a voulu donner à chacun des responsabilités, à chacun des droits, et l'injustice serait et est le fait de prendre le droit à qui que ce soit. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'il a dit à son fils le premier droit, parce que l'enfant a des droits sur nous, le premier droit que tu as sur moi, c'est d'avoir choisi ta mère. On pourrait dire autant pour les femmes vis-à-vis de leurs enfants. Le premier droit de l'enfant, c'est d'avoir choisi son père. Et donc, dans la famille, Allah a donné à la femme des responsabilités. Allah a donné à l'homme des responsabilités. On dit qu'une femme est venue voir le professeur sallam en lui disant quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon mari. Le professeur sallam lui aurait dit, c'est que tu lui ordonnes dans tout ce qui, tu lui obéis dans tout ce qui ne désobéit pas à Dieu. Elle a dit, je ne me marie pas. Pourquoi? Parce que le mariage est fait pour aller vers Allah. Et comme elle sait qu'elle n'est pas prête à obéir à un homme, elle a préféré n'avoir pas à désobéir à l'homme pour ne pas désobéir à Allah. C'est pour cela que quand on essaye de casser nos familles, quand on essaie de les détruire, et c'est la mission principale du Shaitan, vous le savez, Shaitan a des soldats qu'il envoie, il s'est juré de nous amener tous en enfer. Et Allah a voulu, dans sa miséricorde, préserver une infime partie des fils d'Adam. Et donc, Shaitan a juré à Allah de nous amener en enfer avec lui. Et sa promesse, peu s'en faut qu'elle se réalise, sur 1000 fils d'Adam, nous a informé le prophète sallam, 999 pour 1000 iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Ce sont les Gog et Magog. Et le 1 pour 1000, ce sera les croyants, bien sûr, ce sera les musulmans. Et on sera, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, la majorité, en tout cas la moitié, a dit le prophète sallam, des gens du paradis. Quand je dis nous, je parle de la communauté du professeur sallam, bien sûr, qui a proclamé l'unicité, qui l'a comprise et qui a mis ça, yani, en pratique. On sera la moitié du paradis, a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan envoie son armée parcourir la terre. Et quand il revient lui faire des comptes rendus, moi j'ai fait ceci, moi j'ai poussé celui-là à voler, il dit tu n'as rien fait. Moi j'ai fait celui-là à mentir, tu n'as rien fait. Il va demander pardon à Dieu et Dieu va lui pardonner. Et celui qui viendra en disant, moi j'ai séparé l'homme de la femme, il va lui dire, toi rapproche-toi, toi tu es mon rapproché. Et les shaitans, il n'y a pas que les djinns. Hein. Les différentes agences, les différentes personnes, les différentes associations, voilà c'est ton droit, va te plaindre, va porter plainte, reprends-lui ceci, reprends-lui cela, tu as droit à ceci, tu as droit à cela, et quels sont tes devoirs ma soeur? Quels sont tes devoirs vis-à-vis d'Allah avant toute chose? Ensuite vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère? Quels sont tes devoirs? On ne se les pose pas ces questions-là. Et d'où vient ces devoirs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a dit. Pourquoi? Pour ton bien. ne voient pas ce que les gens inventent. S'ils étaient heureux, ça se serait su. Ne vis pas sur les nuages. Quand il y a une société, il faudrait bien un responsable. Allah a voulu que cet homme soit responsable, pas parce que s'il est tyran, il va le payer. C'est pas ce qui va l'amener, c'est pas parce qu'il est un homme qu'il ira au paradis. Il ne bougera pas d'un pas. Chacun d'entre vous est responsable. Le prophète m'a dit, chacun d'entre vous est un berger. Et l'homme est le berger de sa famille, il sera responsable sur ce qu'il aura fait, donc de la conduite qu'il aura prise pour diriger sa famille. La femme est responsable des biens de son mari et elle sera responsable de cela. Le berger est responsable de ce que son maître lui confie, sera responsable de cela. Et donc, c'est une chance pour toi d'obéir à Allah et de ne pas avoir cette charge dont tu n'auras pas à rendre compte. Bien sûr, dans tous ceux qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Quel que soit, j'entends des sœurs en train de dire, mon mari veut que je travaille absolument pour amener ceci, pour aller en vacances, pour je ne sais quoi d'autre. Mon mari veut que j'enlève le hijab. Mon mari veut que... Il n'y a pas d'obéissance. Que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit qui que ce soit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est un principe sur lequel il n'y a pas de divergence entre deux savants. Ça n'existe pas. Et donc, ce mari-là, prie pour lui. Et on le verra, en fait, dire à Fodail, qu'Allah lui fasse miséricorde, si j'avais une invocation, à une seule invocation, dont je suis sûr qu'elle sera acceptée, je la réserverai au responsable. Là, il parle du gouverneur, mais ce serait également pareil pour le chef de famille ou celui seulement, celle à qui Allah a confié une responsabilité de n'importe quel groupe. Si chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y aurait pas de groupe. Il n'y aurait que le désordre sur la terre. Et donc au niveau de la famille, ça reste à ce niveau et dans une autre mesure, ce serait exactement pareil. Et le cheikh Fawzan, pour dépasser la famille, même si c'est ce qui nous intéresse le plus tous les jours, le cheikh Fawzan dit pour Ahl Sunna wal Jama'a, le commandement du bien et l'interdiction du mal doivent être conformes à ces cordons de la législation et non pas la manière des innovateurs, des Mu'tazila. Ce sont les rationalistes qui disent mon cerveau a dit, ça c'est pas logique. Et les Khawaris, c'est-à-dire les Takfiri, qui nomment leur révolte contre les gouverneurs et leur désobéissance commandement du bien et interdiction du mal. Moi je me révolte, ah non, le gouverneur c'est un injuste. Donc je vais me révolter contre lui parce que Dieu dit. La communauté, vous êtes la meilleure communauté parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Est-ce que c'est comme ça que les compagnons du prophète ont compris la parole du prophète, les versets du Coran? Non. Et vous connaissez peut-être pas assez. C'est que comment Shaitan les a amenés à assassiner les meilleurs des hommes après les prophètes. Ils ont tué les compagnons du prophète, dont Othman ibn Affan, dont Ali, Yanni. Allah les agrée tous. Pourquoi? Parce que je crois que, je pense celui-là, il a fait ça, il a jugé par autre que le Coran, donc c'est un kafir, donc son sang devient légal, donc. Parmi qui? Ils étaient essentiellement des sots qui les suivaient, et c'était beaucoup de jeunes, sans expérience ni science, qui traversent le Coran ne traverse pas leur gorge. Ils ont lu, ils pensent avoir compris. Et ils ont semé le désordre sur la terre. Et le prophète m'a dit, partout où vous les rencontrez, tuez-les. Pourtant, c'est les dents qui d'achat. On dit qu'ils ont combattu Ali et les compagnons du prophète. Ils étaient, après, ils combattaient jusqu'à ne plus rien voir, jusqu'à la nuit. Quand les compagnons du prophète étaient fatigués et qu'ils dormaient, et ils se levaient pour faire Qiyam al-Layl. Donc ne te fie pas à leur look. Ne te fie pas à la trace que tu verras sur leur front. Ou à leur tenue, ou à je ne sais quoi d'autre. Le prophète dit, où que tu les rencontres, tu les tues. Ils sont convaincus de faire le bien. Et celui qui a tué Othman, qu'Allah l'agrée, celui par qui Allah nous a laissé ce mushaf, et je témoigne qu'il est au paradis. Le prophète m'a dit, Abou Bakr est au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, jusqu'à la fin des 10 qu'il a cités. J'aurais aimé être là pour qu'il me rajoute parmi ceux-là. Eh bien, je n'ai aucune garantie, vous non plus. Pour ce que Allah leur a accordé comme bienfait. Celui qui a tué Othman, il a dit, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu, c'est pour ça que je l'ai tué. Et les meilleurs d'entre nous, ils disent, l'important n'est pas que tu aimes Dieu. L'important, c'est que Dieu, il t'aime. Les chrétiens, ils ont donné à Dieu un fils. Ta'ala Allah yandhalik. Peu s'en faut que le ciel ne se soit fendu. et que la terre les engloutisse. Nous, on ne va pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu, les chrétiens. On ne va pas dire que celui qui a donné à Dieu ce dont il se passe, on ne va pas dire qu'il n'aime pas Dieu. Mais on est sûr que Dieu ne l'aime pas. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran? Qul ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Dieu, vous le prétendez, suivez-moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Nous, notre critère, c'est quoi? Tu aimes Dieu? Peut-être. Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Je ne veux pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Mais je sais que la voie sur laquelle tu es, ce n'est pas la voie des gens qui aiment Dieu, parce que Dieu dit, dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Dieu, si vraiment vous êtes sincère dans votre amour de Dieu, suivez-moi. Et Allah n'accepte pas la quoi que ce soit de celui qui prétend aimer Dieu et qui ne suit pas la sunna du prophète. Allah ne l'accepte pas. Et donc c'est le cas de toute personne qui va mourir dans la désobéissance à Allah en désobéissant au prophète, malgré l'amour fou qu'il a inventé, parce qu'il est passé par des fenêtres. Allah, pour Allah, il faut passer par la porte. Il y a une voie droite et il y a des sentiers qui amènent tous en enfer. Il y a une seule voie. C'est la Torah Mustaqim que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de suivre. C'est le chemin de qui? An-Nabiyoun, An-Nabiyin, Was-Siddiqin, Was-Shuhada, Was-Salihin. Et quelle bonne compagnie. Les prophètes ont suivi ce chemin-là. Les gens très sincères ont suivi ce chemin-là. Les martyrs témoins ont suivi ce chemin-là. Et les gens de bien ont suivi ce chemin-là. En dehors de ce chemin, en dehors de cette route, de cette voie, il n'y a que des sentiers tortueux qui amènent tous en enfer. Et vous comprenez mieux pourquoi le prophète sallam, de ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala lui a révélé, lui a inspiré. Ma communauté va se diviser en 73 parties. Il n'a pas dit 73 sectes. 72 iront en enfer et une seule sera sauvée. Les 72 sont des sectes. On dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la partie qui va être sauvée? Il dit, ceux qui sont sur la voie sur laquelle moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est pour cela que la jama'a, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas séparer l'islam, la sunna, de la voix des compagnons et la voix des gens qui les ont suivis dans l'excellence. C'est pas toi qui le définis. Ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Celui qui dit ça, c'est un homme avec un petit H et c'est surtout un ignorant et un prétentieux. Et donc, le cheikh Fawzan dit ici, les jeunes en particulier, en train de désobéir à Allah, désobéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en train de dire qu'il commande le bien et l'intérêt le mal, c'est un mal. C'est au contraire, il dit, contraire, c'est le commandement du mal et l'interdiction du bien. Le commandement du bien et l'interdiction du mal sont en fonction des capacités, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui d'entre vous qui voit un fait, un mal, qui le chante de sa main, s'il ne peut, alors de sa langue, et s'il ne peut, alors par son cœur. Hadith rapporté par Muslim. En fonction des possibilités, Allah ne change pas une âme, au-delà de ses capacités. Celui qui a le pouvoir et la force met fin au mal par sa main, comme le gouverneur, ses représentants, les forces de l'ordre, et en fonction des capacités que l'on leur a octroyées, ils mettent fin au mal par la main. Le responsable du foyer a du pouvoir dans son foyer et il change le mal par sa main. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans et corrigez-les pour qu'ils l'accomplissent à l'âge de 10 ans. Le chef de famille a donc un pouvoir sur ses membres. Les membres de son foyer, il les éduque et les corrige s'ils commettent une faute et méritent d'être corrigés, de même que le mari a un pouvoir sur son épouse. Quant à celui qui n'a aucun pouvoir, mais peut exposer les choses, connaît le licite et connaît l'illicite, fait la différence entre les deux. Il doit parler et exposer aux gens ce en quoi il tombe. Si cela concerne un individu, il le conseille en secret. Wallahi qu'Allah les bénisse. Les savants ne sont pas comme nous. Si ça concerne un individu, tu vois quelqu'un qui a fait du mal, vous vous rappelez, un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans un endroit meilleur qu'aujourd'hui, qu'ici, c'était la mosquée du prophète sallam, il a vu un homme en train d'uriner dans la mosquée. Vous connaissez toute l'histoire. Des compagnons sont précipités. Ils voulaient le charger et le vider. Le prophète sallam, laissez-le qu'il termine. Tu ne peux pas imaginer. Laissez-le qu'il termine. Ensuite, versez de l'eau. Il est venu le voir. Il a dit, tu sais, ici, c'est une mosquée. Ici, on ne doit faire que l'adoration d'Allah, le louer, etc. Et il a dit, on dit à la fin de ce hadith, il a dit, oh mon Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, fais miséricorde à Mohammed et ne fais miséricorde à personne d'autre. Parce que les avis voulaient le tuer. Et il était en train de faire quoi? D'uriner. Et donc, comme il le dit ici, qu'Allah le bénisse, le chef Hawzan, il dit ici, s'il s'agit d'un individu, il le conseille en secret. Et si cela concerne tout le monde, et que la désobéissance est générale, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas comme ces gens qui mettent sur Internet et ailleurs en train de critiquer tous les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il adresse des reproches à l'ensemble, mais sans spécifier et nommer les individus. Car le professeur m'a dit, il disait souvent, qu'ont les gens à faire ceci? Pourquoi les gens font cela? Et certaines sœurs, qu'Allah les bénisse, me disent, mais quand je viens à la mosquée, le vendredi, j'ai l'impression que c'est moi que tu visais. Effectivement, on dit chez moi, si ce n'est pas ma tombe, je ne sais pas si j'ai un chez. L'endroit qui m'a vu vivre, qui m'a vu naître, on dit, quand tu peux te tromper de repas, le plat, il est plus joli, il est plus grand, tu as plus faim, donc tu vas faire semblant de prendre le grand plat. Alors que ce qui t'a été réservé, tu le sais très bien, c'est le petit. Mais tu peux te tromper. Mais la parole qui t'est adressée, tu te trompes pas. Quand on parle de toi, tu sais très bien qu'on parle de toi. C'est comme si on viendrait te dire, mais qui te l'a dit? Et le prêche, il sert à ça. C'est un rappel. Et le rappel profite aux croyants. Les gens qui ne sont pas orgueilleux, qui acceptent la vérité. Et donc il dit ici, qu'Allah le bénisse, le prophète s'en disant, qu'ont les gens à faire ceci, sans spécifier, car cela entraîne plutôt des méfaits et la fuite de celui que l'on désigne devant les gens. Il faut plutôt adresser des propos généraux et dire, qu'ont les gens à faire ceci, qu'Allah les guide, et les choses de ce genre, les personnes, si elles sont sincères, si elles ne sont pas orgueilleuses, elles comprendront très bien qu'Allah leur a voulu du bien. Et on fait dire à Omar ibn Khattab qu'Allah l'agrée, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui voit mes défauts et qui me les montre. Parce qu'il te veut du bien. Celui qui te voit tes défauts, s'il ne te dit pas devant tout le monde, s'il ne veut pas t'humilier, et ça se voit, il te prend de côté et il t'en parle, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Même si tu penses qu'il se trompe, certainement tu vas prier pour lui. Quant au fait de divulguer, c'est pas moi qui le dis, c'est le cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve, quant au fait de divulguer, critiquer, inciter et de parler dans les assises d'un tel ou d'un autre en disant qu'ils font ceci, cela n'amène aucun bien, mais au contraire, c'est une propagation de la turpitude. Les gens n'ont pas entendu parler de cette chose, mais toi tu la propages parmi eux en disant un tel a fait ceci et en tel lieu et se passe cela, alors que les gens n'ont pas entendu parler de ces choses qui réjouissent les hypocrites et les gens mauvais. Donc le fait de propager le mal n'est pas une reprobation du mal. Surtout auprès de ceux qui n'en ont pas entendu parler. Tu reçois un SMS, tu reçois un lien sur telle et telle personne, tu ne fais que le pro. Tu ne sais même pas si c'est vrai. Tu ne fais même pas si c'est vrai. Est-ce qu'il a demandé l'avis des savants? On appelle à manifester. Qui a dit? Tu ne sais même pas qui c'est. Est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est un savant? Est-ce qu'il y a une fatwa dessus? Est-ce que machin? Non. Tu propages tout ce que tu reçois. Ah, moi, j'ai voulu faire le bien. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire le bien. Combien de gens ont voulu faire le bien et très peu de gens y sont arrivés. Avant de le faire, on a dit, avant d'ordonner le bien, avant d'inviter les gens, avant d'ordonner le bien et le mal, il faut, avant l'acte, la science. Avant la douceur et ensuite avant l'indulgence. Et donc, le cheikh Fawzan, qu'Allah le bénisse, dit, si tu ne peux faire ni ceci ni cela, que tu n'as aucun pouvoir et ne peux parler, tu dois reprouver le mal en ton cœur. Tu ne dois pas agréer le mal, mais te courroucer contre cela et t'en éloigner. Donc, après avoir reprouvé ça de son cœur, car la réprobation ne cesse jamais. Et le plus bas degré de la foi est qu'Allah sache qu'en ton cœur, tu reprouves ce mal et que si tu en avais le pouvoir, tu le ferais cesser. Mais tu n'en es pas capable, alors cela te suffit et Allah ne charge aucune âme que ce qui lui est facile. Ça, c'est un principe. Et rapidement, très rapidement, un autre principe des gens de la sunna desquels nous nous réclamons, c'est qu'on appelle à tous ceux qui s'opposent à ordonner, tous ceux qui s'opposent au commandement du bien interdisent le mal, de considérer les bienfaits et les méfaits sur la balance de la législation. Quand on voit le bien, on te dit, bon, je ne peux pas faire tout le bien, donc je l'abandonne. Quand je vois le mal, je ne peux pas le changer, donc je l'abandonne. Ou non, ça c'est un mal, ça. Sans voir le plus grand mal qu'il y a derrière. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agré, elle a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ton peuple n'était pas si proche de leur époque de l'ignorance, j'aurais dépensé le trésor de la Kaaba sur le chantier d'Allah, j'aurais mis sa porte au niveau du sol et y aurait inclus l'enceinte de Hijr Ismaïl. Toi, tu vois ça, mais quand le prophète a laissé ça, pourtant, la porte de la Kaaba était basse. On pouvait rentrer maintenant. Il était faux, il y a un escalier. Heureusement, d'ailleurs, je dirais. Parce que déjà, les gens s'accrochent et veulent emporter un petit bout de tissu qu'ils vont adorer. Ils veulent tous rentrer dans la Kaaba comme si... Le fait de rentrer dans la Kaaba, c'est comme si tu étais au paradis. Moi, j'ai reçu par courrier une personne, probablement qui m'aimait, qui m'a envoyé un petit bout de tissu qui recouvre la Kaaba. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Pour que probablement tous les matins, je le regarde et je te dise quelle chance j'ai. Non, c'est une tentation. Il y avait 360 idoles dans la Kaaba. Les mouchriquins, ils rentraient dedans, ils faisaient leur prière. Est-ce que c'est pour autant qu'ils iront au paradis? Certainement pas. On ne s'accroche qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn Khattab, l'un des meilleurs compagnons du Prophète sallam, il a embrassé la pierre noire, vous le savez, qui est une pierre descendue du paradis, comme l'a dit le Prophète sallam. Il dit, pierre noire, je sais que tu n'es qu'une pierre. Si je n'avais pas vu le Prophète sallam t'embrasser, que tu n'es qu'une pierre qui ne peut faire ni du bien ni du mal. Si je n'avais pas vu le Prophète sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Ça, c'est ceux qui ont connu Allah. C'est ceux qui ont connu l'islam. L'islam, c'est être indépendant de tout, sauf d'Allah. De tout, sauf d'Allah. Là, tu as gagné. Tu es le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Quand tu t'accroches à autre qu'à Allah, certainement, tu seras déçu. Ça peut être un mari, ça peut être un père, ça peut être je ne sais qui d'autre, tu seras déçu. C'est pour ça que nos maris et nos femmes nous déçoivent quelque part. Nos amis, les meilleurs amis nous déçoivent. Parce que tu as mis trop de confiance, trop d'espoir. Que ton espoir soit à Allah. Ils ne sont pas parfaits. Allah seul est parfait. Dans le récit des hypocrites, dans le hadith de Jabir, qu'Allah l'agré, lorsqu'on demande au prophète sallam s'il allait tuer les hypocrites qui l'ont insulté, qui ont insulté la religion, Allah leur a donné le nom de tous les hypocrites de Médine. Et pourtant, le prophète sallam les traitait de la meilleure des façons. Il les connaissait pourtant. Il a dit non. Sinon, les gens diraient que Mohammed sallam tue ses compagnons. Les gens ne verront pas ce qu'ils ont fait. Les gens ne verront pas ça. Les gens ne verront que le fait que Mohammed sallam a tué ses compagnons. Pourquoi? Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas savoir non plus. Ils ne veulent pas savoir non plus. Et ça, c'est l'une des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est quand il y a un bien et un mal, et quand le mal l'emporte, on préfère ne pas faire le bien, parce qu'en faisant le bien, le mal, il va se répandre. Pour faire d'une histoire longue courte, je vais, Inch'Allah, juste vous rappeler une chose qui est importante, qui est la règle numéro 12. Des gens de la sunna et de la jama'a, ils croient que le serment d'allégeance légiféré ne doit être fait qu'à l'imam des musulmans par les dirigeants représentant l'ensemble des gens. Ce n'est pas sur internet que tu vas faire prêter serment, je ne sais à quel calife, ni dire « moi je suis le chef d'eux », ni « moi je suis le chef de tel tariqa ou de tel groupe ». Ceci n'est pas permis. Certainement, le musulman doit écouter et obéir en ce qu'il aime et déteste, a dit le prophète sallam, et ce tant qu'on ne lui ordonne pas une désobéissance à Allah. Et si on lui ordonne une désobéissance, il n'y a ni écoute, ni obéissance. Le cheikh Fawzan, il dit, cette règle de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur est un des fondements de la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'ah qu'ils indiquent dans les livres traitant des croyances, et ce contrairement aux Khawarij, les Takfiri et les Mu'tazila, adeptes de l'innovation. Les adeptes de la Sunna et du groupe des musulmans adorent Allah en écoutant et obéissant au gouverneur musulman, sans cesser d'obéir, même si le gouverneur est injuste, oppresseur et pécheur, tant que cela n'atteint pas la mécréance. Tant que cela n'atteint pas la mécréance, ceci car il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance, et la patience sur l'injustice des bienfaits, une union, réunification, sécurité et stabilité supérieure au fait de se révolter contre eux. La révolte contre les gouverneurs entraîne des grands maux, d'immenses méfaits, comme cela est arrivé à l'époque de Othman, radiallahu anhu. Le calife bien guidé, le troisième des califes bien guidés, lorsque le groupe rebelle l'a combattu et que cela entraîna des troubles que les musulmans subissent encore. Depuis la mort de Omar al-Anna, nous subissons ce que nous avons mérité. Et tout ceci à cause de nos péchés, notre éloignement d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont interdit. Telle est l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur ont exposé les preuves. Ils les ont conseillés. Mais cela s'est tout de même réalisé. Allah l'a voulu, afin que ce soit une leçon pour les musulmans. Aucun groupe ne s'est soulevé contre son imam. Et je dirais, aucune femme ne s'est soulevée contre son mari. Aucun groupe ne s'est soulevé contre son imam, quel qu'il soit. Celui qui a été désigné comme imam, c'est pas parce qu'il est le plus beau, c'est pas parce qu'il est le plus savant. Aucun groupe ne s'est soulevé contre son imam, dit-il, ou son émir, sans que cela n'entraîne des troubles et des maux que seul Allah sait. Ainsi, il est obligatoire de peser les bienfaits et méfaits. Et si les méfaits sont plus nombreux que les bienfaits, il n'est pas permis de provoquer des méfaits, mais il faut patienter et obéir au gouverneur, même s'ils sont injustes et oppresseurs. C'est pas, il est en train de répéter les hadiths du prophète sallam. Je vais vous en donner les sources si Allah m'en donne le temps. Nul doute que l'injustice et l'oppression sont un méfait. L'injustice du mari, l'injustice du gouverneur, c'est bien sûr du munkar, c'est un méfait. C'est un méfait. Et que la désobéissance est un méfait. Mais la révolte contre eux entraîne un plus grand méfait. Et tant que le méfait est plus grand, il faut supporter le moindre des deux maux pour repousser le plus grand mal. Des centaines de milliers de morts parmi les musulmans aujourd'hui dans le Cham, en Syrie, en Irak, et Dieu seul sait où. Au Pakistan et maintenant au Sahel et en dehors du Sahel et partout. Parce qu'on se prend pour l'armée de Dieu. On se prend pour l'armée avancée de Dieu, c'est ce que ça veut dire Qaïda. Qaïda, c'est le fait d'avancer. C'est-à-dire l'armée de pointe. De qui? Que ça s'appelle Aqmi, que ça s'appelle Daesh, que ça s'appelle je ne sais quoi d'autre. Qui êtes-vous pour vous prendre pour ce que vous n'êtes pas? Et combien de millions de réfugiés, combien de femmes sont en train de les maudire, combien d'orphelins qu'ils ont voulu faire, bien faire, je n'en doute pas. Mais qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut supporter le moindre des deux maux pour repousser le plus grand mal. Ceci concernant les imams injustes et pervers. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire des imams de l'équité et de la vérité, tels que Othman, le troisième calife, bien guidé, et d'autres gouverneurs pieux, dont la rectitude est plus grande que les erreurs. Bien sûr, ils en feront. De plus, l'erreur, la désobéissance, le péché et le mal des gouverneurs ne touchent qu'eux. Mais lorsque l'on délaisse l'obéissance, le mal touche les gouvernés et la communauté, et de nombreuses tueries et massacres et injustices surviennent. L'imam al-Barwahari, dans son livre Sharh Sunna, l'islam et la sunna et l'islam, c'est comme ça que c'est traduit, il dit ici, il faut écouter et obéir les gouverneurs en ce qu'Allah aime et agrée. Quiconque prend le pouvoir par consensus des gens autour de lui et leur agrément devient commandeur des croyants, il n'est pas alors permis à personne de passer une seule nuit en pensant qu'aucun imam ne le gouverne, qu'il soit pieux ou pervers. Et là, l'imam, le cheikh Najmi, Ahmad Najmi, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'Allah lui fasse miséricorde, il commente donc ça, entre autres choses, il rappelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, décrit, il dit, ici parmi les preuves déjà mentionnées, le hadith d'Abdallah ibn Omar, qui dit, celui qui cesse d'obéir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cesse d'obéir rencontrera à un gouverneur qu'il a désigné, rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucun engagement, sans aucun argument pour lui. Et celui qui meurt sans être soumis à un serment d'allégeance meurt d'une mort de jahiliya. Et la mort et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'écoute et l'obéissance sont un devoir tant qu'on n'ordonne pas de péché. Et si on ordonne un péché, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Donc écouter et obéir au gouverneur est une obligation qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, en ce sens que même s'il commet des péchés, il n'est pas permis de se révolter contre lui en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si vous voyez une mécréance évidente sur laquelle vous possédez une preuve claire devant Allah. Et dans l'autre hadith, que celui à qui un gouverneur chez lequel il voit une désobéissance à Allah qui le reprouve, ce qu'il fait, mais ne le désobéisse en rien. Il y a beaucoup d'autres choses à lire et à vous commenter. Sache que l'injustice du gouverneur, dit l'imam al-Barwahari, ne diminue en rien les obligations qu'Allah a imposées à travers de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son injustice ne retombe que sur lui, alors que ton engagement et ton obéissance te reviendront pleinement si Allah le veut. Ses obligations sont la prière en commun, la prière du vendredi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. En résumé, parce que le Asra arrive rapidement. En résumé, ordonner le bien, interdire le mal est une obligation collective au niveau de la communauté. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas trois personnes, a dit le professeur Sallam. Si le groupe atteint trois, il faut un responsable, un imam. Le groupe atteint trois, il faut un responsable. Parce que Shaitan est proche d'un. Et il est un peu plus loin de deux, il est encore plus loin de trois. Quand vous êtes trois, il faut un responsable. C'est pas parce qu'on choisit les meilleurs, bien sûr. Ceux à qui, de qui on pense du bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Mais dans tout ce qui ne dépend pas Allah, on doit leur obéir. Que ce soit au niveau d'une famille et que dire au niveau d'une société, quelle qu'elle soit. Que ce soit une mosquée, que ce soit une association, que ce soit un groupe. Si tu n'es pas content, alhamdoulilah, ce n'est pas une obligation individuelle. Si ce n'est pas une obligation dans l'islam, alhamdoulilah, tu changes de groupe. Mais de là à désobéir et critiquer les responsables en pensant faire du bien, on fait du mal. Ce n'est pas ordonner le bien. Et quand on le fait de la façon la plus douce possible. Et avec science, c'est-à-dire qu'on sait que la chose est une chose qui est reprouvée par Allah et son messager, alayhi salatu wasalam. Et on va voir la personne, même si c'est un despote, même si on dit que c'est un tyran, on va la voir en secret. On prie pour la personne, c'est parce que c'est par l'amour d'Allah, l'amour de son prophète sallam, qu'on veut guider les gens. Et ça, c'est une chose qui est sûre. Celui qui désobéit à Allah, certainement aura les conséquences. Et la société musulmane aujourd'hui a désobéi à Allah, et nous sommes en train de payer les conséquences de ce que nous faisons. Je vous rappelle juste, et je m'arrêterai Inch'Allah sur ça, je vous rappelle juste ce que les compagnons du Prophète Salam ont goûté. Je vous rappelle de Uhud. Pourtant, Uhud est une montagne du paradis. Le Prophète Salam a dit, cette montagne Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Allah a voulu faire un rendez-vous à Uhud. Entre les musulmans, les compagnons du Prophète Salam, les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, et les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà le mont qui est à côté de Uhud. Il a mis les archers sur ce mont. Il a dit, prenez notre défense et éloignez l'armée des ennemis qui ne s'approchent pas de nous. Ne descendez pas de ce point, même si vous voyez les charognards sur nos dépouilles. Et quand au début de la guerre, Allah a donné la victoire aux musulmans et qu'ils ont vu qu'il y avait des butins à rassembler, Shaitan les a fait oublier l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont descendus pour ramasser le butin. Et celui qui allait devenir, Allah fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Celui qui allait devenir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, Khalid ibn Walid, l'épée de Dieu, un général, grand général. Il a vu le changement de mouvement. Il a été contourné la montagne et il a attaqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'arrière. Et ils ont tous fui, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de renforcer sa foi. Très peu sont restés autour du professeur Assala. Ils ont goûté ce qu'ils ont goûté comme tristesse. Il y a eu 70 martyrs, dont Hamza, que vous connaissez, et que Wahshi, qu'Allah lui pardonne, a ouvert la poitrine, a sorti son cœur et son foie pour l'amener à Hind, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les deux sont quand même morts musulmans. Wallahi, Allah est généreux. Tu tues les amis d'Allah et pourtant il te guide ensuite. Pour ne pas te punir. Et quand ils ont demandé au professeur Sallam d'où ça nous vient ça, Allah dit au professeur Sallam, dis-leur ça vient d'eux-mêmes, à cause des péchés qu'ils ont faits. Et ils ont oublié. Que dire alors de nous, qui désobéissons à l'autorité, qui désobéissons à Allah, matin, midi et soir. Pourquoi vous voulez qu'on soit heureux? Pourquoi vous voulez qu'on ne soit pas la risée des peuples? Que tous les gens se réunissent contre nous? Pourquoi? C'est pas étonnant. Si on se réunit contre nous parce qu'on est exemplaire, parce qu'on est droit, parce qu'on a des principes sur lesquels on ne marche pas, parce qu'on a des valeurs qu'on respecte, alhamdoulilah. D'autres sont venus avant nous, on les a tués parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Alhamdoulilah. Mais nous, quand on nous critique, malheureusement, les critiques sont parfois et très souvent vraies. À faire des enfants pour la CAF, à vouloir mentir pour je ne sais quoi, à tricher pour avoir, je ne sais pas, une allocation de femme isolée, à je ne sais quoi faire, à ne pas faire sa prière à l'heure, à mentir, à tricher. Qu'est-ce que nous méritons? Qu'est-ce que nous méritons? À part que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Et la plus grande miséricorde sur nous, c'est de nous avoir donné la foi et ensuite de nous avoir guidé, nous montrer la vérité et conserver sa religion. Donc les assises d'une société Elles peuvent être fragiles comme elles peuvent être solides. Elles sont fragiles quand chacun pense et fait ce que bon lui semble. Elles sont solides quand c'est vraiment basé sur l'obéissance à Allah, l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on ne peut pas récolter, un peuple ne peut pas récolter le succès en désobéissant à Allah, en désobéissant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas. Donc si vous voulez, mes sœurs, que Allah fasse sortir de nous des gens meilleurs que nous, il faut revenir à Allah repentant. Il ne faut pas suivre ces jeunes, ces ignorants, ces gens qui appellent à l'enfer, même s'ils sont musulmans, même s'ils appellent au djihad. Ce n'est pas n'importe qui fait le djihad. Vous allez remarquer, ce n'est pas des collégiens seulement. Les collégiens, les lycéennes, quand vous regardez quelqu'un qui ne sait même pas faire la prière, ni ne connaît les obligations, même des ablutions, avec le Kalachnikov en train d'appeler les gens de venir, rejoignez-nous, etc. Il ne sait même pas pourquoi il combat. Et du temps des gens, les gens qui ont tué Ousmane, les gens qui ont attaqué les compagnons du Prophète sallam, les gens qui ont attaqué les amis après, c'était à peu près la même chose. Et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui, ignorants qu'ils sont, en train de dénigrer les savants, en train de les insulter, en train de se prendre pour ceux qui ne sont pas. La seule solution que tu as, ma soeur, c'est de revenir vers Allah repentant, de lui demander 17 fois par jour quand tu peux, quand tu n'as pas d'excuses, de faire ta prière à l'heure, d'éduquer tes enfants, de leur enseigner la vérité, de prier pour eux. Il se peut alors qu'Allah nous fasse miséricorde et fasse sortir de nous des gens qui sont meilleurs que nous. Subhanakallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fik. Sommes-nous pécheurs, la première question, si on n'interdit pas le mal et qu'on n'ordonne pas le bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, alors sinon, Allah vous enverra un châtiment qui ne va pas épargner les meilleurs d'entre vous. Ordonner le bien, interdire le mal est une obligation. Mais chacun à son niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit un faible homme, qu'il change de sa main. Donc il est responsable, plus ou moins. S'il ne peut de sa langue, de la meilleure façon on dit, la science, la douceur, l'indulgence, tu prends la personne de côté et tu lui parles de côté, tu lui donnes un conseil. Ça, c'est une obligation. Et si tu ne peux pas, Allah sait que tu ne peux pas, alors que ton cœur reprouve ce mal-là. S'il n'y a pas ça, le professeur m'a dit, il n'y a plus un brin de foi dans ton cœur. Et mes sœurs, je suis craintif pour moi-même avant tout. Je suis désolé. Et ensuite pour vous, le fait de vivre avec des gens, que ce soit ici ou ailleurs, sans qu'on ordonne le bien, qu'on fasse des manifestations, la manif pour tous, et je ne sais quoi d'autre. Et tu ne peux même plus dire que l'homosexualité dans l'islam est interdite. Tu ne peux pas le dire. Et si ton cœur finit par mourir en disant que non, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas vu des animaux homosexuels, moi je n'en ai pas vu. Maintenant, ton cœur ne bouge même plus. Wallahi, c'est la fin du monde. Allah va nous châtier tous et qu'il nous préserve de ce châtiment-là. Le minimum, c'est que ton cœur n'accepte pas ça. Quand tu vois un faible amable, tu ne peux pas l'accepter. Si tu ne peux pas le dire parce que tu le dis, tu vas avoir une plainte pour homophobie. Si tu le dis, tu ne peux pas le dire. Au moins que ton cœur ne l'accepte pas. Si ton cœur l'accepte, il n'y a plus de foi. Tu peux faire la prière 50 fois par jour. Le prophète m'a dit, il n'y a plus de foi après ça. Donc ce que je crains pour moi, ce que je crains pour vous, c'est à force de vivre avec la liberté de, je ne sais pas, chacun a sa liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Que ton cœur ne même bouge même plus. Alors quand ton cœur ne bouge pas, je ne dis pas d'aller à casino, aller casser des bouteilles de vin, aller à Carrefour pour jeter la viande de porc par terre. C'est pas à toi. Tu n'es pas responsable de ça. Celui-là, soit il va à CIS, soit il va en psychiatrie. D'accord? Tu n'as pas le droit, ça ne t'appartient pas. Par contre, si ton cœur ne bouge même plus, alors tu n'as plus de foi. Tu peux dire, qui c'est que tu veux, mais ton cœur, tu n'as plus de foi. Et ça nous guette. J'ose rarement donner un bon conseil. Aurais-je des comptes à rendre sur cela si je vois mes sœurs mal couvertes et que je leur dis rien? C'est une question de sagesse, ma sœur. C'est une question de sagesse. Tu ne peux pas passer ton temps, sortir. Moi, je vais à la fac. Toutes les femmes que tu verras et en leur disant pourquoi tu ne te couvres pas, ma sœur, j'ai deux mots à te dire. Tu ne peux pas. Chacun est responsable. Mais je te dis, le minimum, puisque tu ne peux pas faire ça, le minimum, c'est ton cœur et tu pries pour la sœur. Combien de gens dans cette salle ici étaient découvertes? Je ne veux pas que les gens lèvent la main. C'est juste pour dire le bienfait d'Allah sur nous et sur vous. Combien? Tu n'as pas à juger cette personne-là. tu dois prier pour elle et remercier Allah de t'avoir évité cette épreuve qu'elle a. Elle aime Allah. Je ne doute pas, en tout cas, je ne veux pas dire qu'elle est ennemie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a bu, il était ivre. On l'a amené, on lui a donné 100 coups de fouet. Certains l'ont frappé avec la chaussure, d'autres l'ont frappé avec autre chose. Quelqu'un a dit, qu'Allah te maudisse. Qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas ça. N'aide pas Shaitan sur lui. Et tu ne sais pas qu'il aime Allah, qu'il aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu imagines? Celui qui est ivre, qui est sorti ivre, qu'on a châtié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il disait la vérité, il aime Allah, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a ça, il suit sa passion. Il n'a pas encore cette foi. Allah ne lui a pas encore donné la foi de pouvoir se passer de cet enivrant et je ne sais de quoi d'autre. Tu n'as pas à dire celui-là, c'est un ennemi de Dieu, il n'aime pas Allah. Moi j'aime Allah plus que. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es dans ton cœur? Il aurait peut-être dit le prophète Salam, pourquoi tu n'as pas ouvert le cœur pour savoir ce qui est dans le cœur? Je ne dis pas que ton cœur n'a pas bougé. Si ton cœur ne bouge pas, tu n'as plus de foi, a dit le prophète Salam. Mais c'est avec douceur. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, quand tu vois quelqu'un te désobéir à Allah, tu dois avoir pitié de lui. C'est un ignorant. Et c'est vrai, c'est un ignorant. Wallah, s'il savait, s'il mourait aujourd'hui, s'il savait qu'il allait aller dans l'enfer, déjà dans la tombe, il ne l'aurait jamais fait. C'est un ignorant. C'est ton frère. Est-ce que tu aimerais aller en enfer? Non. Alors le minimum que tu dois avoir pitié de lui. C'est koufar. Il faut le tuer. Il faut les égorger. Où est la foi? Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu aimerais être à sa place? Certainement pas. Qu'Allah le guide. Le meilleur homme, il ne voulait pas que Makkah s'écroule. Pas parce qu'il aimait les cartes postales de Makkah, il n'y en avait pas. Parce qu'il dit, ce que je souhaite, c'est qu'Allah fasse sortir de ces gens au moins une personne qu'il aime et une personne qu'il adore plutôt sans rien lui associer. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Un homme viendra au jour du jugement dernier, un prophète, alayhi salatu wasalam, et avec lui personne. Mais c'est un hadith qui me plaît beaucoup. Wallah, ça me plaît beaucoup. Le prophète m'a dit, j'ai vu les communautés. On m'a montré le peuple de Moussa, alayhi salatu wasalam, à perte de vue. J'ai dit mon peuple, on dit non, ça c'est pas ton peuple, ça c'est celui de Moussa. Ceux qui sont là en train d'insulter les Yahoud, les meilleurs des hommes font partie des. Beaucoup des meilleurs hommes sont des fils d'Israël. Il y a des musulmans parmi les fils d'Israël, à commencer par les prophètes. Quand tu insultes les juifs, quand tu insultes les arabes, le meilleur des hommes est un arabe. Parmi eux, il y a des gens bien, parmi eux, il y a des gens qui sont mauvais. Celui qui s'est soumis à Allah, alhamdoulilah, c'est un musulman. Il est peut-être mieux que toi. Et celui qui a suivi ses passions, il verra. Et ensuite, on a dit, toi, regarde, à perte de vue, il a vu un peuple et dit, voilà ton peuple. Il a dit, alayhi salatu wasalam, j'ai vu des prophètes venir, certains avec très peu. Un avec deux ou trois, et un qui est venu avec personne. Un qui est venu avec personne. Et pourtant, Dieu a été satisfait de lui. Parce que c'est un prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, il faut appeler à Dieu. Avec la science, avec la douceur, avec l'indulgence, et ensuite tu patientes. On va dire, regarde cet intégriste, regarde cette ceci, regarde cette cela. Alhamdulillah. Il y a d'autres qui ont supporté plus. Tu l'as fait pour Allah. La patience vient forcément. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah en a fait le principe. Et l'imam Shafi'i, on lui fait dire que si Allah n'avait révélé que ce verset, ça aurait suffi. Allah jure par le temps que l'homme est en perdition. L'humanité entière est en perdition. Sauf les croyants. Et ça ne suffit pas. Tous les croyants sont en perdition. Sauf les croyants qui font les bonnes œuvres. La prière, le jeûne et le reste. Et ils sont tous en perdition. Sauf ceux qui, qui appellent à l'islam. Et qui s'enjoignent l'islam. Et qui s'enjoignent quoi? La patience. Parce que quand tu appelles à Allah, certainement tu vas avoir des ennemis. Parmi les djinns, oui. Parmi les hommes aussi. Y compris parmi les musulmans. Les gens qui nous attaquent aujourd'hui le plus, ce sont les musulmans. C'est eux qui se font les avocats des non-musulmans ou des islamophobes ou le reste. Comme ça, entre eux. Et donc, il faut que tu fasses la patience. Sinon, tu peux ne pas le faire. Et le prophète sallam a dit, ma soeur, ad-dinu an-nasiha. La religion, toute la religion, si tu veux la connaître, c'est le bon conseil. On dit vis-à-vis de qui? Il dit vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, vis-à-vis des responsables des musulmans. que tu dois conseiller en secret. Et après, ils appliquent, ils n'appliquent pas, ce n'est pas ton problème. Et vis-à-vis de chaque musulman, chacun est ta sœur, chacun est ton frère. Si tu peux le conseiller, tu dois le conseiller de la meilleure façon. Allahu a'lam wa a'lam. Sans science, est-ce qu'on peut quand même ordonner le bien? Par exemple, hein, de ce dont on est convaincu. Ce n'est pas une question de conviction. Comment changer la personne qui fait subir une injustice si on ne lui parle pas? Non, mais justement, c'est toi qui vas lui parler. Hein. Et si tu ne peux pas, parmi les choses qui ne sont pas de la médisance, dit l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les six choses qui ressemblent à la médisance qui n'en sont pas, et n'en profitez pas pour inclure ce que nous disons comme médisance tous les jours, il y en a beaucoup. Déjà, tu vas parler et tu vas te dire non, ce n'est pas de la médisance ce que je veux dire. C'est qu'il y a peut-être de la médisance dedans. Mais parmi les six choses qui ne sont pas de la médisance, c'est que quand tu vois quelqu'un qui fait du mal, et toi, tu ne peux pas le changer, tu le dis à quelqu'un qui a un pouvoir quelconque dessus, à son père, à son mari, à son fils, à ceci, qui va le conseiller parce que moi, je ne peux pas le faire. Tu vois quelqu'un en train de faire certains gestes. Tu sais quelqu'un qui n'accepte pas, ou tu lui as dit n'accepte pas. Tu as fait ton devoir. Tu vas voir quelqu'un que la personne respecte. Ou tu vas voir l'imam, ou tu vas voir je ne sais qui d'autre en lui expliquant. Et la personne va lui expliquer. Bien sûr, il faut ordonner le bien. Mais ordonner le bien, interdire le mal, ne doit pas conduire à plus de mal. C'est ce que les gens qui n'ont rien compris, justement, sont soulevés contre les gouverneurs, contre ceci et cela, et ça les a amenés, ça nous a amenés avec eux, là où vous savez, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, sans science, si je suis convaincu, convaincu de quoi? Qui tu es pour être convaincu? Si tu es convaincu de la source, que Allah a dit ça, le prophète sallam a dit ça, les savants ont expliqué ça par ça, oui. Qu'est-ce que ça a dit le prophète sallam? Balighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. On est tous savants. Savants de quoi? Tout est relatif. Tu sais faire la prière, mashallah. Tu es savante dans la prière. Tu peux et montrer à la personne, mais pas à nous les malikites. Tu fais ça, ah non, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que moi je prie comme ça. Ma grand-mère priait comme ça. Mon grand-père priait comme ça. Donc faire ça, ah non, non, celui-là, il est rentré dans la mosquée, on a prié l'Assa, il a fait deux rakas. Ah ça c'est haram ça. C'est pas de la science. Tu es convaincu que c'est haram, mais c'est faux. Avant d'aller voir ta soeur en lui disant ça c'est haram, c'est devant tout le monde déjà. Et on sent la haine sortir. Il y a de tes yeux. Si tu pouvais la brûler, tu le ferais. Demande au moins, est-ce que les savants sont unanimes pour dire qu'il faut prier comme ça ou la prière est interdite à place? Tu verras que la plupart des savants diront que quand tu rentres dans une mosquée, le prophète m'a dit, ne t'assois pas avant de faire deux rakas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les malikites et l'imam malik ont compris que le prophète m'a dit, ne fais pas, il n'y a pas de prière volontaire entre après le asr jusqu'au coucher du soleil. Pas de prière volontaire depuis le soubh jusqu'au lever du soleil. Mais les savants ont dit, il a dit également, ne t'assois pas avant de faire deux rakas. Le prophète lui-même a prié après le asr. Il ne va pas dire une chose et faire le contraire. Donc, tu n'es pas savant. Comment les savants ont compris ça? Les savants ont divergé. Donc, ne dis pas que c'est haram. Si tu dis que c'est haram, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas ton avis sont dans le faux. Et toi, qui es-tu pour avoir... Si tu connais, alhamdoulilah, la prière, tu connais les règles, tu connais ce que Allah a dit dessus, le prophète Allah a dit dessus, tu conseilles avec douceur ta sœur et tu auras la récompense. Qu'elle accepte la sœur. Mais si chacun d'entre nous ordonne ce dans quoi il est convaincu, on risque d'ordonner le haram, et interdire le halal. Donc c'est très bien. Si tu es savante dans un domaine, il n'y a aucun souci. Tu te dois, tu es obligé. Tu ne peux pas le cacher. Au jour du jugement dernier, combien de gens viendront en se plaignant d'autres, en disant tu m'as vu faire du mal, tu ne m'as rien dit. Je vous ai dit déjà qu'Allah fasse miséricorde et bénisse Omar ibn Khattab qui dit que Dieu fasse miséricorde à celui qui me voit qui voit une de mes erreurs et qui vient pour me montrer ça. Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne te l'a pas montré. Ce n'est pas mon problème. Oui, on est une société individualiste, ce n'est pas mon problème. C'est son problème. Chacun aura sa tombe. Oui, tu verras ce qu'il y a dans ta tombe. Tu ne t'occupes pas de la tombe des autres, tu vas t'occuper de la tienne. Quand on voit une désobéissance, autre question, est-ce une fausse excuse de se dire que la personne a peut-être des déviances dans sa akhida, donc je m'abstiens de lui faire le rappel? Non. C'est certainement une faute de le faire. Le musulman, on a vu ça dans les frères surtout, en train de finir ce livre, Sharh Sunna, c'est une obligation de penser de ton frère et ta sœur. Sans preuve, c'est une obligation de penser du bien. Pourquoi tu dis que ma aqida est déviée? Qu'est-ce que tu en sais? Tu es dans mon cœur? Pourquoi tu dis que mon dogme est dévié? Pourquoi tu dis que mon dogme est dévié? Tu sais à quoi je crois? À supposer que mon dogme est dévié, tu ne vas pas m'être utile mieux que de venir me voir en me montrant la vérité. Tu te crois mieux que moi? Toi, ton dogme? Oui, bien sûr. Si tu as un dogme. Non. Tu vois ta soeur, tu lui montres la vérité gentiment, tu pries pour elle, tu pries Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter la douceur, tu lui expliques des choses, elle dit non, vous les wahhabites. Il dit alhamdoulilah, moi j'ai fait ce que j'ai à faire et tu ne vas pas la gifler pour autant. Tu es ignorante, ce qu'elle a dit, peut-être qu'elle va l'amener en enfer, qu'elle nous en prédame, avec les sobriquets, etc. Mais tu as fait ce que tu as à faire. Tu sais que celui-là, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Là, il a un autre problème. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais c'est bien plus profond. Et avec douceur, si tu connais quelqu'un qui le connaît, tu lui en parles, etc. Parce que toi déjà, tu as été classé. Même si tu dis la vérité, il ne va pas l'accepter par orgueil et par ignorance. Donc, non, c'est, on n'a pas le droit. Celle-là, cette égalée-là, cette ceci, cette cela, et toi, qui tu es? Tu es plus proche de l'égarement, en tout cas, que la personne qui n'a rien dit, parce que tu ne sais pas où elle est. On doit se remettre en cause, nous, avant de remettre en cause les autres. Et on a tendance, nous, tout bien sûr, tous les malheurs viennent des autres et pas de nous. Les conditions du voile islamique, qu'Allah nous facilite l'application. Il y a 8 conditions, dit le Cheikh Albani. La première condition, c'est bien sûr que ça couvre tout le corps, sauf les mains et le visage pour certains savants, la majorité des savants. D'autres savants disent que toute la femme est une aura, c'est-à-dire elle doit être couverte entièrement. Il y a les deux avis. Donc, s'il y a un endroit à montrer, qu'on peut montrer, selon les savants, je parle bien sûr vis-à-vis de l'extérieur. Pas vis-à-vis, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de aura entre un homme et son épouse, et vice-versa, bien sûr. Et vis-à-vis des personnes de la famille, père, les femmes, le père, les enfants, les neveux, les oncles, etc. Il y a une partie qui est aura, donc qui est au-dessus de la vie le plus fort, au-dessus de la poitrine et jusque donc aux genoux. Mais je parle donc à l'extérieur. Il faut que tout le corps soit couvert, sauf les mains et le visage pour la majorité des savants. Il faut que l'habit, bien sûr, soit, quand on dit couvert, il ne faut pas que ce soit transparent. Ils mettent quelque chose dessus, c'est un voile ou la voilée, c'est comme ça qu'on appelle la mariée, elle a un voile et tu vois tout, à quoi ça sert? C'est pas couvert. C'est plutôt de la provocation qu'autre chose. Donc il faut que ce soit, que ça couvre quelque chose, que ce soit pas transparent. Il faut que ce soit ample. Si c'est transparent, si c'est couvert en même temps, c'est serré, à quoi ça sert? C'est couvert. Ces pantalons et ces slim et je ne sais quoi d'autre. Et tu penses que tu es habillé alors que tu es déshabillé. Le professeur m'en a parlé en disant qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore vues. Ces femmes habillées et déshabillées. Tu dis comment ça, de quoi il parle? Nous on l'a vu. Elles sont habillées mais en fait elles sont plus que déshabillées. Il faut que l'habit ne soit pas parfumé non plus. Puisque même pour venir à Isha, même à un certain âge, le professeur m'a dit a interdit. Quand je dis parfumé, ce n'est pas forcément venant de Lancôme ou d'ailleurs. Même de l'encens et le reste qui peut attirer l'attention. Puisque quand Allah vous demande de vous couvrir, c'est pour la santé morale de la société. Il y a déjà des gens au cœur pervers, même parmi les musulmans malheureusement aujourd'hui, et qui vous suivent comme des sœurs. Je connais des sœurs qui portent le niqab. Quand elles arrivent ici, elles l'enlèvent. Pour se protéger contre qui? Contre leurs propres frères qui ne respectent même pas leurs propres sœurs. Il faudrait que ce soit un habit qui ne soit pas un habit spécifique des mécréants, pour que ce soit un habit qui ne soit pas un habit spécifique des hommes, il faudrait que ce ne soit pas un apparat en lui-même, l'habit ne soit pas lui-même un habit d'apparat, c'est-à-dire avec dès qu'on te voit, c'est le jour de fête, tout le monde se retourne pour te regarder. Peut-on jouir d'un bien d'un musulman acquis avec la riba? Par exemple, une maison et une piscine d'un musulman qui l'a fait construire espérant en prenant un crédit, est-ce comparable à un bien d'un non-musulman qui ne sait pas que la riba est interdite? Ça dépend du choix que tu as. Si c'est ton mari, tu peux rester avec lui. Si ce n'est pas le cas, si tu peux t'en passer, mieux vaut t'en passer. Parce que la riba, comme vous le savez, pour quelqu'un qui le sait, en tout cas, Allah déclare la guerre à celui qui fait la révolte. Donc, c'est vraiment pas une mince affaire. Ah oui, mais en 2014, comment vous pouvez faire? Vous êtes dépassé quelque part, c'est de Dieu dont tu te moques. C'est pas moi. Si tu veux, tu sors de l'islam. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Qu'Allah me pardonne, j'ai fait ça. Effectivement, j'aurais pas dû le faire. Au moins, tu restes encore musulman, tu es dans la faute. Mais si tu penses vraiment que les lois de l'islam, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dépassées, c'est toi qui es dépassé. Et ça fait partie des choses qui annulent ton islam. Donc, il faut vraiment faire attention. Si tu es avec ton mari et que ton mari a fait ça, tu lui as dit ne le fais pas, tu l'as conseillé, etc., il t'est permis d'injure, tu n'es pas responsable. Mais si, tant mieux, finalement, il a une piscine, je vais en profiter. Non. Si tu peux éviter, tu évites. Parce qu'au moins, tu n'es pas complice. Il y a une de ça arrive. Mais tu ne vas pas divorcer. Il y a une pour un péché majeur, tant que la personne ne va pas justifier son péché en disant que ce n'est pas un péché. Par contre, si la personne te dit que ce n'est pas du riba, il faut lui montrer que c'est du riba, que Allah l'a interdit, ça peut faire sortir de l'islam. Donc, il faut vraiment faire encore une fois, ne sortez pas en disant, je viens de Basso Kambo, on a dit que notre mariage est annulé parce que tu es un kafir. Je ne l'ai pas dit, qu'Allah me préserve, je ne l'ai pas dit. Et je ne suis pas de cette école. Est-ce une innovation que de se regrouper dans les appartements entre femmes sans prendre le thé pour s'exhorter et parler d'Allah, jamais entre femmes, est-ce permis? Cela se fait beaucoup de nos jours, un mari nous l'a reproché. Disons, il n'est pas sunna de se regrouper dans les chambres, notamment, surtout aujourd'hui. Si vous êtes avec, alhamdoulilah, une femme qui sait et qui se base sur le Coran, la Sunna, qui est connue et que les imams lui permettent de le faire, il n'y a pas de souci. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une habitude, c'est l'un des points du livre que je vous ai montré, La Lumière selon la voie des pieux précesseurs. C'est une habitude de secte qui se cache pour entre eux, ils invitent qui serait soit parce que la personne ne connaît pas grand-chose, pour essayer de l'entraîner. Ce n'est pas une bonne habitude. Ce n'est pas sunna de le faire. Après, celles qui ont dit que non, la sunna c'est ça, on leur a démontré qu'elles ne connaissaient pas grand-chose, parce que pour la sunna, ce n'est pas ça que tu as entendu. La sunna, c'est bien plus large. Donc, si vraiment, vous savez que la femme, elle est connue pour sa droiture, pour suivre la sunna, elle est connue par les gens de sunna comme celle, c'est possible, mais il faut vraiment qu'elle enseigne ce qu'elle sait et pas qu'elle appelle les gens et qu'elle soit ouverte à tout le monde. C'est ça le problème. Chez les Ahl Sunnah, il n'y a pas de dawa secrète. C'est entre nous, notre groupe. Donc, on va amener les gens qu'on va recruter à Basso Kambo. Et ailleurs, pendant le ramadan ou ailleurs, tu viens me voir, ma soeur, tu es très gentil, voilà mon numéro de téléphone, pour t'amener dans mon groupe. Ça, c'est interdit. Formellement interdit. Par contre, s'il y a une annonce, moi, je dis, par exemple, pourquoi moi? Parce que c'est moi, je suis là, c'est tout. Il y a une séance chez telle soeur, et que tout le monde peut y aller, il n'y a pas de mal à cela. Mais recruter les gens comme ça, souvent, c'est pour faire véhiculer quelque chose que l'on n'aimerait pas que les gens sachent. Voilà. Et donc, c'est la position que je connais par rapport donc, à la licité ou à l'illicité de groupements de ce genre. Quand j'ai fait le Isha à l'heure, puis-je la rattraper le matin? Non, je n'ai pas fait plus le Isha à l'heure, puis-je la rattraper le matin avant Fajr en incluant les prières de clôture ou pas? Pour le Isha, il y a deux avis. L'heure de l'entrée de Isha est connue. L'heure de sortie de Isha, pour les Malikites, les savants du Bled, c'est avec le Fajr. Donc, selon cet avis, tu peux le faire, mais le Prophète a déconseillé de dormir avant de faire l'Isha. Par contre, si tu es tombé de sommeil ou tu étais malade, tu as préféré te réveiller, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas, c'est Shaitan qui te fait, oh, mais tu vas le faire en plus, tu vas avoir le dernier tiers de la nuit, ensuite, jusqu'au moment où tu te lèves et le soleil est déjà levé. Donc c'est déconseillé, forcément déconseillé de dormir avant de faire l'Isha. Mais si ça t'est arrivé et que tu t'es réveillé, de toute façon, il faut le faire. Il faut le faire. Et si tu le fais, c'est possible de faire le huître derrière, il n'y a pas de souci. Ça, c'est chez les Malikites. Chez les trois autres écoles, à ma connaissance, le Isha, ça s'arrête à minuit. Quand je dis minuit, c'est la moitié de la nuit. C'est-à-dire que la moitié de la nuit, je ne sais pas, que la nuit c'est du Maghreb jusqu'au Fajr. Tu prends l'heure du Maghreb, tu prends l'heure du Fajr et tu divises par deux. Ça peut être une heure du matin maintenant, ce n'est pas forcément minuit. Et donc il faut que tu fasses le Isha à ce moment-là. Et si tu le fais après, il faut quand même que tu le fasses. Si tu le fais après, tu es en retard. Donc ça t'est permis de le faire. De toute façon, il faut le faire. Mais n'accepte pas l'invitation de Shaitan de te faire rater cette prière qui est importante, qui est celle de Isha. Est-ce que l'on doit accepter de serrer la main des médecins lorsqu'ils nous tendent la main? Ce n'est pas une question d'accepter ou pas que le médecin te soigne parce que tu n'as pas le choix. Déjà, si tu peux choisir un médecin, choisis un médecin du même sexe. Et dire, ben, c'est un médecin, vous vous exagérez. Le professeur m'a dit, mieux vaut qu'on te plante un clou dans la tête que de toucher une personne qui n'est pas mahram, qui peut t'épouser. Je sais que c'est difficile. Il y a certaines sœurs qui ont trouvé, si c'est le médecin, si c'est une fois en passant, qui ont trouvé se mettre du mercurochrome, du rouge, et qui mettent un bandage comme si elles avaient quelque chose au bras. Pour, bon, c'est une. Mais mieux vaut ne pas désobéir à Allah. Et si on désobéit, il faut demander pardon. Ce n'est pas permis. Après, on le fait, beaucoup de gens le font, mais ce n'est pas permis. Il ne faut pas s'étonner ensuite de ce qui nous arrive. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, comme le dit mieux que moi. Vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Quelque part, tu fais ce que Allah t'interdit, tu dis, bon, mais fais de moi ce que tu veux. Ça, on n'a pas le droit, c'est un manque de pudeur. Donc, il faut éviter déjà. Et si tu vas avec ton mari, ou avec ton frère, ou avec je ne sais quoi. Si tu peux, mets les deux mains dans les poches, tu fais le tour de la table, tu pries Allah, que ça n'arrive pas. Malheureusement, ils ont cette tendance-là dans ce pays, comme je dis, hier on en parlait. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Aux États-Unis, les gens ne se donnent pas la main. Hi, hi, et c'est tout. C'est comme ça qu'ils disent. Hi, hi. Voilà. Et quand ils sont étonnés de voir les Français, on te présente quelqu'un, tu lui fais la bise. Tu ne la connais même pas. Un Américain, j'ai passé un an là-bas, sauf s'ils ont changé entre-temps, c'est possible. Tu lui tends la main comme pour te montrer sa surprise. Et après, il te la prend. En disant, tiens, c'est bizarre, pourquoi tu me tends la main? Voilà. Donc, c'est une question d'habitude. Et on a des mauvaises habitudes ici comme ailleurs. Hein. Ça, ce n'est pas une bonne habitude. Entre les femmes, je parle entre hommes et femmes, je parle entre les femmes. Mais même entre femmes, chez les Américains, c'est pas dans leur coutume. Juste, c'est hi, hi. Voilà, bon. Donc, il faut éviter. Ne le rendons surtout pas halal. C'est ça le problème. Ça, c'est pas grave. Ne le dis pas parce que tu as pris le droit de Dieu. Ça, c'est pas grave. Ne le dis pas. Ne dis pas qu'un péché n'est pas grave. Ne le dis pas. Parce que tu dis quelque part que la désobéissance à Allah n'est pas grave. Ça ne le dit pas, parce que tu prends une double responsabilité. Est-il autorisé de prêter une somme d'argent à un homme qui nous est étranger? Si c'est déjà fait, faut-il lui demander de les rembourser? Ça m'étonne. Autre que notre mari, frère, etc. Bien sûr que c'est autorisé. Est-ce qu'il est autorisé de vendre de l'argent? Ça dépend de vos rapports. Ça ne doit pas être parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est pas non. C'est quelqu'un te demande, c'est que tu es riche ou que tu as de l'argent. Et tu le fais devant témoin, et c'est pas à toi de lui faire, bon, mais c'est pas grave, peut-être qu'il va demander ma main, peut-être, si je lui dis non, peut-être qu'il va pas me faire ceci, cela, non. Les rapports doivent être clairs, il y a des rapports entre les hommes et les femmes, ça existe. Je vous ai dit dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala parle de Youssouf, de Moussa, alayhi salatu salam, il s'est adressé aux deux filles de l'homme de Madian, il a puisé de l'eau pour elles, l'autre est venu la voir, parler, Dieu dit, même au fond du prophète sallam, de ne pas parler aux hommes avec un langage doux ou séduisant, de peur que ceux qui ont une maladie au cœur, donc, ne les convoitent. Il est permis de parler à un homme, il est permis de parler à une femme, il est permis de faire des affaires, sinon il n'y aurait pas de commerce, sinon vous n'irez pas au marché, c'est permis, mais il y a des limites. Les limites sont là, il doit être franche, il n'y a pas de, et comment ça va, tu as bien dormi, non. Là, c'est entre mahram. Salam alaikum, salam, alhamdulillah. Voilà. Donc, mais n'est-il pas autorisé? C'est autorisé, mais il ne faudrait pas que ce soit entre vous. Pourquoi lui va te demander de l'argent, de lui prêter? Pourquoi? C'est ça qu'il faut voir. Le problème, il est là. Pourquoi? Mais si tu le connais, c'est un collègue de travail ou un collègue de ton mari ou je ne sais quoi, il n'a qu'à demander à ton mari. Pourquoi il passe par toi directement? La question que je pose, c'est comment tu es arrivé là? Dire que ce n'est pas permis, non, c'est permis. Mais dans quelles conditions? Voilà. Si un mari ne veut pas faire la prière, est-il déconseillé de vivre encore avec lui malgré plusieurs appels? Tu connais certainement, ma sœur, l'avis des savants qui disent que celui qui ne fait pas la prière, qui refuse de la faire ou qui ne veut pas la faire, celui-là, c'est un kafir. Carrément, il sort de l'islam. Ce n'est pas mon avis, je ne suis pas savant, je ne suis pas mufti. La plupart des savants disent que s'il se sait pécheur et qu'il compte la faire, il reste musulman. Mais s'il meurt, il a pris un très gros risque. Voilà. Il y a ces deux avis en général. Mais il est clair que tu aurais dû choisir aussi, entre guillemets. C'est souvent, toi non plus tu ne faisais pas la prière, vous vous êtes rencontrés là où il ne fallait pas se rencontrer, vous êtes sortis ensemble et ensuite vous avez rendu halal. Et après, maintenant, alhamdulillah, toi, Allah t'a guidé. Tu aurais dû choisir le meilleur pour tes enfants, le meilleur père. Qu'Allah te pardonne, qui me pardonne, qui nous pardonne. Maintenant qu'il est dans cet état-là, prie Dieu, incite-le à le faire. Glisse, et à chaque fois que tu peux, quand tu as l'occasion pour qu'il fasse la prière, passe par quelqu'un qui l'aime bien ou qui a l'autorité dessus pour qu'il fasse la prière. Après, il a ce qu'il mérite. Est-ce que c'est une raison pour divorcer? Pour certains savants, certainement. C'est même, tu es même obligé de le faire. Pour d'autres, mieux vaut patienter, priant Allah qu'il le guide. Est-il obligé de faire la prière de consultation pour un divorce? Après la consultation, le professeur m'a dit, si l'un d'entre vous décide d'entreprendre une chose importante, et le divorce est certainement important, bien sûr que tu peux le faire. Mais le divorce, ma sœur, c'est pas une mince affaire. Comme tu le sais, celui qui demande le divorce sans raison valable ne sentira pas l'odeur du paradis, a dit le professeur. Certains frères abusent, et tu te menaces avec ça, et alors qu'eux-mêmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapprochent plutôt de l'enfer qu'autre chose. Mais le divorce, il faudrait vraiment que ce soit la dernière solution. Tu vois que sans ça, tu risques d'aller en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc à ce moment-là, tu fais intervenir qui tu veux, tu fais beaucoup de doigts, tu fais beaucoup de patience, et qu'Allah bénisse nos mères. Moi je le dis toujours, c'est vraiment, je le pense, elles ont beaucoup supporté de nos pères. Beaucoup. Et qu'Allah les récompense pour ça et pour le reste. Donc il faut patienter. On est très peu patient, surtout aujourd'hui. On est très peu patient. Ce n'est pas, vous avez trop lu de romans photos, vous avez lu vous avez regardé trop de séries. C'est pas comme ça la vie. La vie, c'est la patience. Eh oui. Donc il faut patienter, il faut prier Dieu, il faut faire intervenir le tuteur, il faut intervenir les amis, tout ça. Et si malgré tout ça, ça vous amène plutôt, ça vous éloigne de Allah, c'est bon, Allah ne fait que le meilleur. S'il a décrété et permis le divorce, c'est qu'il y a des situations où le divorce est mieux que le reste. Mais le divorce, c'est pas une immense affaire. Si tu es un homme divorcement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je veux dire, ça ne se dit pas. C'est ton mari, c'est au moins ton frère. Comment tu oses le traiter de qui n'est même pas un homme? C'est ça. Si tu es un homme divorcement, et lui et son chétan le prend, il te dit je te divorce. Non, ce n'est pas une immense affaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on demande tous les matins, comme certains le font. Certains d'entre vous le font, il ne faut pas le faire. Mais bien sûr que c'est permis. Si Allah le permet, c'est que c'est la seule solution dans certains cas. Quand on reçoit une amende en conduisant, d'ailleurs j'en profite, 90 euros et moins de 4 points sur le permis, parce qu'on était insouciante et brûlant le feu rouge. L'amende est-elle pour nous purifier? En tout cas, c'est pour te donner une leçon. J'aurais préféré que tu le mettes dans la mosquée, comme le dit le frère hier soir. On va déménager, ça me donne l'occasion, Inch'Allah, de vous le dire. Certains d'entre vous, beaucoup même le savent. On va déménager, Inch'Allah, à côté de l'usine d'incinération, juste derrière la DDE, en début de la zone de Thibault. Et donc, on nous a déjà placé les Algecours, alhamdoulilah. On va déménager dans 2-3 semaines, Inch'Allah. Parce qu'on doit commencer à construire ici au plus tard le 12 janvier. Sinon, notre permis sera obsolète. Donc, faites attention, il y a un frère qui a fait la remarque, 3 feux sur 4 ont des radars là-bas. Il a dit plutôt que de donner 90 euros et 4 points, mieux vaut le mettre dans la caisse de la mosquée. Il avait bien raison. Voilà, donc faites attention quand même, on n'a pas à donner ça, mieux vaut le donner, ça peut faire vivre comme le pauvre, ça peut participer à la construction du mosquée, ça peut faire plaisir à une famille, etc. Plutôt, on a eu une partie de ce qu'on a mérité. On n'a pas à le faire. On n'a pas à désobéir aux lois tant que ça ne désobéit pas aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une purification, je l'espère au moins que pour ça, parce que brûlant un feu, tu causes un accident. Et si jamais, dedans, Allah fait que c'est toi la cause seconde pour un meurtre ou quelqu'un qui est blessé à vie, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai pas fait exprès. Bien sûr, si tu n'as pas fait ça, alhamdoulilah, Allah nous pardonne. Mais il ne faut quand même pas, il faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Que ça te purifie, je ne sais pas. En tout cas, Inch'Allah, tu fais attention la prochaine fois. Peut-on aider un vieux monsieur musulman? Exemple. On voit un vieux monsieur musulman qui se rend à la mosquée à pied avec difficulté. Peut-on l'inviter à monter dans notre voiture pour lui faciliter le trajet? Par conséquent, on sera isolé avec un homme haram. Si tu hésites, tu ne le fais pas. si le monsieur veut avoir les hasanat, il marche, il va jusqu'à la mosquée, chaque pas lui sera compté, ça va lui enlever des péchés et ça va l'élever en degré l'autre pas. Donc, si tu doutes, le prophète m'a dit d'Ama Yuribuk, la mala Yuribuk, enlève, laisse ce qui te met dans un doute pour ceux qui ne t'y laissent pas. Donc, ne le fais pas si tu doutes. Par contre, tu ne peux pas dire que c'est haram. Parce que les savants ont divergé dessus. Le fait qu'on voit, le prophète a intérêt la khulwa. Et si tu le fais monter, ma soeur, je te conseille de le faire monter derrière. Les vieux messieurs d'avant ne sont pas les vieux messieurs d'aujourd'hui. Voilà. Et toi, il est vieux, alhamdoulilah, chez les malikites par exemple, faire la bise à quelqu'un qui a 80 ans ou 70 ans, c'est permis. Parce que, avant, les gens de 70 ans, 80 ans, ils pensent à la mort plutôt qu'à autre chose. Et ils considèrent, eux, que les émotions qu'ils peuvent avoir, ça disparaît à cet âge-là. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des couples qui sont très heureux, la femme a 75 ans, le mari a 80 ans, ils se marient. Alors, bon, je ne sais pas. Soit je ne suis pas normal, soit c'est eux qui sont pas normaux. Voilà. Donc, méfiez-vous quand même. Quand on peut, il faut éviter. Évite ce qui te met dans un doute, évite-le. Mais mets-le derrière, à la limite, parce que le fait qu'on vous voit, on ne peut pas strictement dire que vous êtes dans la couloir. Si c'est la nuit, là c'est interdit, parce qu'on ne vous voit pas. Le professeur m'a dit, celui qui s'enferme avec quelqu'un, c'est qu'on ne voit pas, vous êtes deux, Dieu est votre troisième, une femme que tu peux épouser, un homme qui peut t'épouser, le troisième c'est Shaitan. Donc, il ne faut pas s'enfermer avec quelqu'un. Je sais que ça pose problème dans les consultations, je sais que ça pose problème à Pôle emploi, ça pose des problèmes ailleurs, même tu ouvres, on referme, voilà. Donc, c'est une société qui n'est pas du tout adaptée à vivre son islam comme on aimerait le faire. Donc, il faut être vigilant. Je ne suis pas un mufti pour vous dire c'est halal, c'est haram. Si tu peux éviter, évite-le.
Si un mari est aisé financièrement et qu'il ne donne pas d'argent à sa femme, est-il autorisé qu'elle lui en prenne un peu sans rien lui dire?
Quand tu prends un peu sans rien lui dire, ça s'appelle un vol. Mais le professeur a permis au mari qui est radin et qui ne donne pas le droit à la femme et à ses enfants de prendre ce dont elle a besoin pour elle et ses enfants. Je dis bien ce dont elle a besoin. Voilà. C'est pas plus que ça. C'est comme le haram, alhamdoulilah, Allah a interdit pour notre bien. Quelqu'un qui était dans le haram, il a fait la taouba, il est revenu. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Cet argent ne lui appartient pas. Par contre, en attendant d'avoir de quoi manger et boire, il lui a permis de prendre juste ce dont il a besoin pour manger et boire. Pas pour s'acheter une BMW, pour ceci, cela. Ça, c'est interdit. Par contre, juste, mieux vaut qu'il prenne le bus plutôt que d'aller acheter une voiture avec l'argent du haram. Mais il a de quoi prendre pour manger et boire. C'est tout. Donc là, ton mari, il est aisé. Aisé ou pas aisé? C'est son devoir. D'abord, parfois, c'est vous qui l'encouragez, parce que vous voulez absolument vous marier, c'est très bien. En disant, non, mais c'est pas grave, on va diviser, si tu payes la facture, moi je paye le loyer. Non. Ça, le mari se vient à tous les besoins. Il peut le faire. S'il arrive, alhamdulillah, qadrallah, il a fait un accident, ou il a perdu son emploi, il ne peut pas. Que tu l'aides, c'est naturel. Mais que toi, tu sois l'homme, et que lui soit la femme, et ensuite tu veux inverser les rôles, ça marche pas. Si Allah lui donne la responsabilité d'être le responsable et que tu lui obéisses, c'est parce que Allah dit de ce que Allah a donné à l'un et pas à l'autre et de ce que l'homme dépense pour la femme. L'homme qui ne dépense pas pour la femme, c'est la femme qui devient l'homme. Hein. Et c'est l'une des raisons dans cette société où on a autant de problèmes. L'homme ne doit pas considérer sa femme comme une personne qui ne sert à rien. C'est moi qui te nourris, et c'est pas Dieu qui te nourrit, toi. C'est moi qui t'habille, et alors? C'est pas ton devoir. Je te dois rien à cause de ça. Sauf le respect que Dieu me demande de toi. C'est pas je ne suis pas une fainéante. C'est Dieu qui me demande. Dieu te le demande. Donc, si tu le fais, ce n'est pas pour moi que tu le fais pour Dieu. Donc, ne soyez pas celles qui sont là avec un complexe d'infériorité. Oui, mais c'est lui qui m'habille. C'est votre droit. C'est Allah qui vous le donne. Mais si vous inversez les rôles, je vous assure, une des raisons principales pourquoi il y a autant de problèmes dans les foyers, tu dis à ta femme, tu me donnes ça, s'il te plaît, mais t'as qu'à le faire toi aussi. Moi, je suis fatigué, je viens du travail. C'est normal. Elle n'a pas à le faire, c'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation. Mais c'est toi qui la cherches. Et donc tu n'as pas à voler ton mari. Un vol s'appelle un vol. Mais si tu as besoin pour manger, pour faire manger ta famille, tes enfants, c'est ton droit. C'est pas un vol.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين